Vous êtes sur Radio Orient, il est 17h, le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition, un attentat au cœur de Damas en Syrie fait 5 morts et 16 blessés. L'explosion a eu lieu dans un café près du palais de justice, dans un quartier très fréquenté de la capitale. Les Algériens renouvellent leur parlement. Près de 24 millions d'électeurs étaient attendus ce jeudi. Le taux de participation sera le grand enjeu de ce scrutin. Et puis dans le sud de la France, l'incendie qui a déjà parcouru près de 900 hectares dans l'Aude connaît une forte reprise sous l'effet du vent. Sébastien Lecornu est à Marseille où il préside une cellule de crise. Le Premier ministre annonce que le plan Orsan 3, le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire, est maintenu. Bonjour. En Syrie, au moins 5 personnes ont été tuées, 16 autres blessées dans l'explosion d'une bombe à l'intérieur d'un café du centre de Damas, près du palais de justice. L'attentat a provoqué un mouvement de panique dans ce quartier très fréquenté de la capitale. Les forces de sécurité ont rapidement bouclé le secteur, tandis que les secours évacuaient les victimes. Les autorités ont confirmé que l'explosion avait été causée par un engin explosif placé sur les lieux. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière à Damas depuis l'attentat contre une église en juin 2025 qui avait fait 25 morts. Les attentats restent rares dans la capitale depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition islamiste dirigée par Ahmad al-Sharr après la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024. Cette opération intervient alors que le ministre syrien des Affaires étrangères est en visite au Liban pour des entretiens avec les principaux responsables libanais, dont Nabih Berri, allié du Hezbollah. Un déplacement qui illustre le réchauffement des relations entre les deux pays depuis la chute de Bachar al-Assad. Damas réaffirme toutefois ne pas vouloir s'impliquer dans les affaires libanaises ni dans le dossier du Hezbollah. Le président libanais Joseph Aoun a défendu les négociations engagées avec Israël, assurant qu'elles visent à obtenir le retrait des forces israéliennes du territoire libanais. Répondant aux critiques du Hezbollah, il a affirmé que ces discussions relevaient d'une démarche diplomatique et a promis que le Liban ne céderait pas un seul pouce de son territoire. En Iran, près de 6 mois après la mort d'Ali Khamenei, les préparatifs des funérailles nationales du guide suprême se poursuivent, initialement prévus en mars, mais reportés en raison de la guerre. Les cérémonies débuteront samedi à Téhéran et s'étaleront sur 6 jours. À l'issue de cet hommage, les négociations entre l'Iran et les États-Unis doivent reprendre sous la médiation du Qatar et du Pakistan, avec en toile de fond les dossiers du nucléaire iranien et de la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Les précisions de Clara Dubanchet.
Entre 15 et 20 millions d'Iraniens sont attendus dans la capitale pour l'hommage à l'homme qui tint les rênes de la République islamique d'Iran pendant presque 37 ans. Tué fin février dans des frappes israélo-américaines, l'ayatollah a été le chef d'État le plus longtemps au pouvoir dans l'histoire du pays. Fatalement, l'événement s'annonce hors du commun par sa taille et par son symbolisme. Il est d'ailleurs découpé en plusieurs étapes. D'abord, 3 jours d'hommage. La dépouille d'Ali Khamenei sera exposée à la grande mossala de Téhéran. Par conséquent, aucun véhicule ne pourra approcher la mosquée à 1 kilomètre de rayon. L'espace aérien, lui, sera partiellement fermé dès demain, totalement lundi. Ce jour-là, le cortège funèbre traversera la ville avant de prendre la route pour une première escale en Irak. Enfin, Monsieur le Martyr, comme appelé par ses fidèles, sera inhumé dans une semaine dans la ville sainte de Mashhad, sa ville d'origine. Le chef des négociations iraniennes, Mohammad Barer Ghalibaf, annonce un des moments les plus marquants de l'histoire du pays et incite la nation à venger la mort de l'ayatollah. Or, à la suite des funérailles, Mohammad Ghalibaf a rendez-vous à Doha, au Qatar, pour reprendre les négociations de paix avec les États-Unis. Un pacte signé le 17 juin a permis de réduire l'intensité du conflit. Cependant, les tensions persistent autour du nucléaire iranien et de la gestion du détroit d'Ormuz. En d'autres termes, les médiateurs font état de progrès positifs, mais la trêve reste fragile, comme en témoignent les échanges de frappes il y a quelques jours.
En Algérie, près de 25 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler les 407 sièges de l'Assemblée populaire nationale. L'un des principaux enjeux de ce scrutin reste le taux de participation après le record d'abstention enregistré lors des législatives de 2021, marqué par seulement 23% de votants. Un scrutin qui intervient à quelques jours de la fête de l'indépendance du 5 juillet. Et à cette occasion, les proches du journaliste français Christophe Glaize espère une grâce présidentielle. Condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme, il est détenu en Algérie depuis plus d'un an. Antoine Bernard, directeur du plaidoyer de l'assistance de Reporters sans frontières, rappelle l'attachement profond du journaliste à ce pays qu'il connaît et apprécie particulièrement.
Ce qu'on comprend, et en particulier des allers-retours de la famille de Christophe, qui va lui rendre visite régulièrement, son frère Maxime lui a rendu encore visite il y a 3 jours, quelques semaines avant c'était ses parents une nouvelle fois, ils sont très frappés et très reconnaissants à chaque déplacement des très nombreux témoignages de solidarité qui leur sont faits par les Algériennes et les Algériens qu'ils rencontrent dans la rue, en cheminant d'un point à l'autre, dans les transports, dans les hôtels, et même l'administration pénitentiaire a conscience qu'il y a quelque chose avec le cas de Christophe, qui, au demeurant, est très bien traité. Il faut le dire, il faut le reconnaître, même si il commence à souffrir sérieusement d'être coupé du monde, en fait. Ça commence vraiment à peser. C'était en soi cher payé pour n'avoir été que journaliste. Ça commence à devenir très cher payé après 2 années retenues loin de sa famille et de son pays et après une année passée derrière les barreaux. D'ailleurs, le dernier message qu'on a publié, il y a quelques heures maintenant, est celui d'une vidéo de la grand-mère de Christophe, Mamie Jo, qui a 102 ans et qui lance un appel, elle aussi, au président Tebboune.
Monsieur le Président, je suis la grand-mère maternelle de Christophe Glaize, emprisonné en Algérie. J'ai 102 ans et demi et je n'ai pas vu mon petit-fils depuis 2 ans. Nous sommes très attachés l'un à l'autre et j'aimerais bien le retrouver avant de mourir. Je fais appel à toute votre compréhension, à votre clémence envers mon petit-fils. Avec tout mon respect, merci de tout cœur, monsieur le Président.
C'était la grand-mère du journaliste emprisonné en Algérie, Christophe Glaize. Christophe Glaize, qui rencontre assez régulièrement, par exemple, l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco. Christophe Glaize, qui est un journaliste qui aime profondément l'Algérie, c'est important aussi de le souligner.
Oui, absolument. Christophe est extrêmement attaché, respectueux et attaché des Algériennes, des Algériens, de cette société. Qu'il s'est toujours efforcé, comme toutes les autres, mais celle-là singulièrement, puisqu'il est rendu à plusieurs reprises en Algérie. C'est vrai que Monseigneur Vesco a pris en quelque sorte fait et cause pour Christophe, auquel il rend visite régulièrement, à la demande de Christophe aussi, et on l'espère, plaide avec succès la cause de Christophe.
Antoine Bernard, directeur du plaidoyer de l'assistance de Reporters sans frontières. Il sera l'invité de Grand Angle après le flash de 18h, émission présentée par François-Xavier de Calonne. Dans le reste de l'actualité en Ukraine, le bilan des frappes russes menées dans la nuit sur Kiev est désormais de 21 morts et 85 blessés. Selon le maire de la capitale, il s'agit de l'attaque la plus massive contre Kiev depuis le début de l'invasion russe en 2022. Des immeubles résidentiels ont été détruits et des milliers d'habitants ont trouvé refuge dans le métro. Au Venezuela, un homme de 43 ans a été secouru vivant ce jeudi, 8 jours après le double séisme qui a dévasté le pays enseveli sous les décombres d'un immeuble dans l'état de la Guayra. Il a été extrait par les secours, puis transporté vers un hôpital de Caracas. Un sauvetage exceptionnel alors que le bilan de la catastrophe dépasse les 2000 morts. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du du Congo a désormais franchi le seuil des 400 morts avec 438 décès et plus de 1400 cas recensés depuis la mi-mai. Les autorités sanitaires ont confirmé un premier cas à Kisangani, grande ville du nord-est du pays, alimentant les craintes d'une extension de l'épidémie au-delà de son principal foyer situé en Ituri. Face à la progression de la maladie, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé le lancement ce jeudi d'un essai clinique portant sur deux traitements expérimentaux avec l'inclusion du premier patient en RDC. Dans le sud de la France, l'incendie qui ravage l'Aude connaît une forte reprise après avoir déjà parcouru près de 900 hectares. Attisé par des vents pouvant atteindre 70 km/h, le feu menace désormais plusieurs habitations malgré l'engagement de centaines de pompiers, de 4 canadaires, de 2 hélicoptères, bombardiers d'eau et d'un dash. Face à cette situation, Sébastien Lecornu s'est rendu à Marseille pour présider une cellule interministérielle de crise consacré aux incendies et à la canicule. Le Premier ministre a annoncé que face aux fortes chaleurs, le plan Orsan 3, le niveau le plus élevé de mobilisation sanitaire, est maintenu ce week-end avec une chaleur qui repart à la hausse. On l'écoute.
Cette cellule de crise va également nous permettre de faire un point sur la situation. La canicule, évidemment sur la suite du volet sanitaire, on va maintenir le niveau Orsan 3 pour l'ensemble du week-end pour permettre aux hôpitaux de continuer à traiter dans des conditions les meilleures possibles. En tout cas, nous faisons tout pour l'ensemble des personnes qui ont été touchées par l'épisode particulièrement violent de canicule la semaine dernière. Et puis, on fera aussi un point avec Météo France, dans lequel on voit bien que la chaleur va repartir ce week-end à la hausse. Mais heureusement, du dernier bulletin qui vient d'être confirmé, sur la moitié du pays, et pas du tout dans les extrêmes chaleurs telles qu'on a pu le connaître la semaine dernière, puisque aucun département devrait être classifié en rouge pour ce week-end. Enfin, il va nous falloir nous rester évidemment être très prudents, puisque on voit bien les prévisions et les différents modèles laissent avoir tout de même une chaleur qui peut repartir dans le milieu de la semaine prochaine, ce qui nous amènera aussi évidemment à devoir traiter de la question de la sécheresse, des différents impacts, y compris pour notre agriculture, toutes les questions liées aux événements divers et variés qui sont organisés sur le territoire national, et puis aussi bien sûr la question de la ressource en eau.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu. Le gouvernement a renforcé hier son projet de loi sur la protection des enfants après l'émotion suscitée par le meurtre de Liana et les violences sexuelles dans le périscolaire. Perpétuité pour les violeurs en série d'enfants, enquête plus encadrée. On fait le point avec vous, Nawalela Mouchi.
Oui, Nadia, pour protéger les enfants, il ne peut y avoir ni retard ni renoncement. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu sur X. Il a présenté hier en Conseil des ministres une lettre rectificative au texte initial du projet de loi sur la protection des enfants pour y intégrer les engagements qu'il avait pris après la mort et le viol de Liana, la collégienne de 11 ans qui avait disparu fin mai avant d'être retrouvée morte le 4 juin dans le Gers. De multiples défaillances avaient été pointées dans cette affaire, dans un pré-rapport d'une mission d'inspection. Je vais vous citer donc les mesures phares portées par le gouvernement qui souhaite déjà porter à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue pour les violeurs en série de mineurs de moins de 15 ans. Actuellement, la peine maximale pour viol, elle est fixée à 20 ans de réclusion criminelle, que l'auteur ait fait une victime ou 300, comme le chirurgien pédocriminel Joël Squarneck par exemple. Le gouvernement entend aussi supprimer le caractère automatique de certaines remises en liberté anticipées pour les auteurs d'infractions sexuelles. Le projet de loi visera aussi à fixer un délai maximal de 3 mois pour réaliser les actes essentiels des enquêtes sur les crimes sexuels commis contre des mineurs et entendre le mis en cause. Ce projet de loi se veut aussi une réponse aux nombreuses affaires dans le périscolaire, notamment à Paris, où 52 animateurs ont été suspendus pour suspicion de violences sexuelles ou sexistes. Le texte prévoit de garantir aux parents une information sur l'identité des personnes encadrant leurs enfants dans les structures d'accueil périscolaire. Selon Sébastien Lecornu, le projet de loi sera examiné par l'Assemblée nationale à partir du 15 juillet. Et la appelé les parlementaires à procéder à un examen rapide et efficace du texte pour protéger les enfants. Il ne peut y avoir ni retard ni renoncement. Ce sont les mots du Premier ministre.
C'est la fin de cette édition. Merci à Raymond Jouan pour la réalisation. Un prochain rendez-vous de l'info, le journal en langue arabe à 17h30. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.